Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Une bonne année, une bonne santé, c'est essentiel. On a beau le dire toujours comme si c'était ça tombait de ça allait de soi, mais en réalité, ça ne va jamais de soi, la santé. Il la faut, la santé, c'est le silence des organes, c'est que tout va bien. Alors, on ne le goûte pas et on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. On s'en rend compte qu'on était en bonne santé lorsque l'on est malade et qu'on souffre et que l'on se dit « Ah, mais je n'ai pas profité suffisamment de la bonne santé que je pouvais avoir. » Alors je la crois vraiment importante et c'est pour ça que je vous la souhaite tous, chers auditeurs, et au premier chef, à la technique, à l'ensemble des techniciens et à celle qui les représente aujourd'hui, qui n'est autre que Virginie, que je remercie pour la réalisation de cette émission et à qui je souhaite bien sûr tous mes voeux pour la nouvelle année. Pareillement pour le standard. Alors le standard a eu un petit souci, donc il n'y aura pas de standard ce matin. Néanmoins, je pense, j'ai une pensée particulière pour Patrice, bien sûr, qui n'a pas été là. C'est totalement indépendant de sa volonté. Donc vous voudrez bien, chers auditeurs, uniquement passer ce matin par courriel électronique. Courriel électronique à l'adresse de la radio. Et il me sera transmis, bien sûr, l'ensemble de ces observations, remarques, questionnements qui seront les vôtres et nous y donnerons droit avec notre invité du jour, invité que je vais saluer dans un instant. Auparavant, je remercie pour sa présence ce matin. Elle va vous souhaiter, elle aussi, j'en suis sûr, les meilleurs vœux qui soient, eh bien, à celle qui m'assiste. Je n'ose pas dire toutes les semaines, puisque j'ai des fois des remarques en disant non, parfois elle n'est pas là, mais en tout cas elle est là. Elle est souvent là ces derniers temps. Et elle est là ce matin. Il s'agit de Lara Stam. Bonjour, ma chère Lara.
Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Tous mes voeux de bonheur à tous les auditeurs, à tous les bénévoles. Je cite en particulier donc Patrice, Sylvie, Marie-Hélène. Je leur souhaite bonne santé, mes meilleurs voeux pour toute cette année 2026, qu'elle soit la meilleure qui soit. Voilà, voilà mes voeux de bonheur et de réussite à toute notre communauté et aussi GP qui est aujourd'hui nombreuse sur Radio Courtoisie.
Merci Lara, je le salue tout de suite parce qu'il est déjà là et puis ensuite on fait notre
Et sans
petit.
oublier Virginie et toute l'équipe technique, pardon, pardon, bonne année.
Alors allez, bah puisque c'est ça et puisque vous m'avez coupé la parole, c'est pas grave, donnez-nous tous les techniciens, tiens.
Ah non, je ne vais pas donner tous parce que je risque d'en oublier
Et ceux qui seraient
forcément.
oubliés, évidemment, seront
Mais
mécontents.
voilà, Virginie, Arnaud, Benoît, Stéphane, Claudio, qui d'autre? Enfin, je risque d'en oublier donc.
Claudia, Claudia.
Claudia,
Voilà.
exactement. Voilà, Aline. Bonne et heureuse année 2026.
Bravo Lara. Bravo. Très très bien. Alors, il est présent dans le studio, donc nous allons tout de suite le saluer et puis après revenir sur notre causerie de revue de presse quelques instants, Lara, avant le grand entretien en tant que tel. Mais donc, il est présent, c'est notre invité du jour. C'est le géopolitologue, auteur de Ukraine, un basculement du monde ou encore Le temps des fractures. Il s'agit du fondateur, cofondateur de l'Eutheria et du Nouveau Conservateur, la revue. Il s'agit de François Martin. Bonjour François.
Bonjour, je présente aussi tous mes voeux. Je rappelle qu'autrefois, quand j'étais jeune, on disait bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos jours. Donc moi, je souhaite surtout aux auditeurs le paradis à la fin de leurs jours, parce que si je leur souhaite bonne année, bonne santé et l'enfer à la fin de leurs jours, c'est pas tellement une bonne affaire. Donc je dirais surtout ça.
Bravo. Bien.
Voilà.
Voilà. Et le paradis à la fin de vos
À la
jours.
fin
Bon,
de
ben
vos
voilà,
jours, voilà.
l'a
N'oubliez pas
retenu.
ça.
On l'a retenu pour la prochaine fois. Très bien, merci
Voilà.
François. On revient
Voilà.
tout de suite avec vous. Voilà, chers auditeurs, la revue de presse, elle est un préambule de ce dont nous allons parler avec François Martin, c'est-à-dire l'état du monde, le monde 2025. C'est un bilan 2026. Ce sont des prévisions. On fera des prospectives sur ce que pourrait être l'année 2026. Et moi, j'en dirai quelques mots par rapport à la à la revue de presse justement de ce matin, où ce que je crains à titre personnel, c'est ce que l'on pourrait appeler la fusion des crises, de tout ce qui sont des points de crise majeurs au travers le monde, et ils sont nombreux. Et on les sent, et on risque de voir une espèce de flambée générale. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça guerre mondiale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, risque que l'ensemble de ces crises viennent à incandescence. La meilleure preuve, c'est par exemple, ça c'est l'actualité la plus chaude de cette nuit, Caracas, le Venezuela, des explosions entendues durant la nuit. Trump qui avait averti que les jours de Maduro étaient comptés, et il semblerait que les Américains aient lancé une série de bombardements sur le Venezuela durant la nuit. Ce qui était attendu, craint par nombre d'observateurs, semble être, eh bien, à l'heure qu'il est, le point le plus incandescent de la planète depuis cette nuit. Donc, on aura l'occasion d'en reparler avec François Martin et Lara. Bah, je vais peut-être égrener et vous laisser réagir sur chacun de ces points de crise. En tout cas, ce Trump qui semble vouloir faire le ménage dans son arrière-cour. Sauf que le Venezuela, c'est un pays qui aujourd'hui a de solides soutiens, le soutien de la Chine, le soutien de la Russie. Est-ce que cette crise peut être majeure? On reposera bien sûr la question à François Martin. Mais qu'est-ce que vous inspire ces bombardements nocturnes, Lara?
Écoutez, j'étais affligée à la lecture ce matin parce que, encore une fois, on ne décrète pas une guerre mondiale. La guerre mondiale, c'est lorsque plusieurs points chauds s'allument et que ceux qui se sentent en fait les mains libérées pour attaquer les pays qu'ils considèrent comme étant leur point d'influence, etc., se mettent dans les conflits. Donc ça ressemble à un début de la guerre mondiale, dans le sens où partout aujourd'hui sur le globe, il y a des points chauds et ils vont peut-être encore plus s'aggraver avec cette attaque.
Bien.
N'oublions pas le Japon aujourd'hui vis-à-vis du Taïwan, etc. Donc, c'est ce que ça va pas provoquer.
On va lister très rapidement, Lara, tous les points. Donc, second point, on passe de l'autre côté de l'Atlantique, justement, et on arrive même directement en Europe de l'Est. Donc, on a eu ces derniers jours, vous pourrez en dire quelques mots, l'attentat contre une résidence d'État de Vladimir Poutine. C'était à côté de Valdaï, dans la région, je crois, de Belgorod.
Novgorod.
Et donc, eh bien, ce que l'on apprend aussi hier, c'est que Boudanov, qui est un des plus durs du régime ukro-nazi, si j'ose dire, ukrainien, vient d'être nommé à la direction du palais présidentiel, hein, en remplacement de, en tant que chef de cabinet d'André Yermak, qui est dans les affaires de corruption jusqu'au cou. Et là, il semblerait qu'il y ait un dur de chez les durs, l'ancien patron du renseignement, donc la CIA, qui rentre directement au cœur du palais présidentiel, puisqu'on sait le lien, on sait que les services de renseignement ukrainiens ont été restructurés par la CIA il y a des années de cela, et qu'il y a des liens extrêmement étroits entre ces agences de renseignement. Donc, qu'est-ce que vous inspire la nomination de Boudanov à la tête du palais présidentiel de Volodymyr Zelensky?
Moi, je rappelle que Boudanov appartient à cette clique qui avait revendiqué l'attentat contre Daria Dugina. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la tête de l'Ukraine, on a plus simplement des gens qui sont entourés de terroristes, de véritables terroristes. Là, on a un terroriste à la tête du cabinet du président illégitime de l'Ukraine. Donc, ça signe juste, et ça intervient juste après cette attaque sur la résidence de Poutine. C'est presque un remerciement à ce type qui a pu diriger ce genre d'opération avec l'aide des services secrets étrangers. Donc c'est une récompense en fait qu'il a fait à Boudanov pour en le nommant en fait à la tête de son cabinet. J'ai pas d'autres mots que de dire voilà, c'est signé. Il n'y a pas besoin de les preuves qui ont été présentées par la Russie à l'ambassade américaine à l'attaché militaire sont des preuves qu'il faut étudier, etc. Mais c'est même ça, c'est secondaire parce que en priorité, il y a cette signature de reconnaissance pour bons et loyaux services rendus de Boudanov à la tête du cabinet de Zelensky.
L'homme des coups tordus. Merci Lara. On va au Proche-Orient, si vous le voulez bien. L'Iran, des manifestations. Est-ce des agitations liées aussi à des services de renseignement, Mossad, CIA? En tout cas, il y a une agitation. Et Trump, encore une fois, et je terminerai d'ailleurs sur Trump et le problème qu'il a aujourd'hui avec ses soutiens, avec le MAGA, eh bien, est un président qui nous avait été présenté comme non-impérialiste, comme cherchant à en finir avec l'empire américain. On voit que là, à nouveau, il menace sur l'Iran d'intervenir, de bombarder, d'aller tuer. Hein, c'est sa grande formule. Nous allons aller tuer les Iraniens s'ils tirent et s'ils tuent leurs manifestants. Donc, pareil, une montée des tensions. On apprenait dernièrement que des clichés satellites aussi, très précis, préparatoires à des interventions, peut-être celle de l'armée israélienne, mais peut-être combinées avec celle de l'armée américaine, pour des bombardements encore futurs sur l'Iran.
Hier, j'ai lu une information qui m'a paru presque anecdotique, mais il semblerait que les pourtours de Pentagone aient bénéficié de beaucoup de commandes de pizza ces derniers temps, malgré les vacances. Donc là, ça m'a paru presque anecdotique, mais ça s'explique en fait au Pentagone aujourd'hui, il n'y a pas de vacances, donc ils ne sont pas en vacances. On est sur le pied de guerre. Ce que je peux dire à propos de l'Iran. Encore une fois, faut pas oublier qu'ils vont se casser les dents hein, sur l'Iran. C'est pas du tout un tigre de papier. Donc faut faire attention. C'est un immense pays qui a de la ressource et qui est capable de se, comme à l'image de la Russie, de se rétracter et de devenir très solidaire à l'intérieur. Ce qui se passe actuellement avec les mouvements, avec les manifestations, c'était tout à fait interne, lié à la politique monétaire. Rien à voir avec des revendications de renversement de pouvoir, etc. Donc, transformer ça en autre chose, c'est ce qu'a essayé de faire la CIA et le MI6 dans la région. Mais ça ne risque pas d'aboutir.
Bien, merci Lara. Donc, voilà trois points qui pourraient entrer en fusion. Et puis, alors, Taïwan... des manœuvres encore dernièrement chinoises, des tensions, des provocations américaines avec des livraisons majeures d'armes à Taïwan, un conflit qui serait une véritable boucherie. Si vous avez un mot sur ce dernier point. Et après,
rapidement, on voit les déclarations du Japon hein, à propos du Taïwan. Donc là, encore une fois, vous avez aujourd'hui trois points sur lesquels les États-Unis sont soit directement impliqués, soit à travers les proxys. Donc le proxy du Taïwan sera le Japon. C'est certain aujourd'hui, vu comment ça se déroule, vu que nous avons la preuve que ce qui nous a été vendu comme Donald Trump pacifiste voulant faire la paix. Alors s'il voulait faire la paix en Ukraine, il aurait pu la faire justement en arrêtant la surveillance, l'aide satellitaire, etc. Or, ce n'est pas arrivé. Donc, ce n'est pas arrivé, c'est un belliciste qui, en fait, se drape dans le manteau d'un pacifiste, en réalité. Bien. C'est ce que je retiens.
Bien. Pour terminer le volet international...
Et le proxy de l'Iran, pardon, d'Israël. Donc, voilà.
Oui, mais tout ça est lié et peut-être regroupé par les derniers propos de la députée Marjorie Taylor Greene, qui a très fortement critiqué encore la dernière déclaration de Trump sur une éventuelle intervention en Iran. Elle a souligné le mécontentement croissant de ses propres électeurs. On rappelle que l'année 2026 est une année de mi-terme aux États-Unis. Elle a affirmé que les électeurs de Trump menacent d'une révolte fiscale furieuse des dépenses inutiles, de la fraude et des abus de leur argent, qui sont utilisés pour soutenir les étrangers et les guerres d'autrui. Green a souligné que l'attention de l'administration devait se concentrer sur les dollars fiscaux à l'intérieur du pays et la défense des libertés et des droits donnés par Dieu aux des Américains, et non sur les menaces d'une nouvelle guerre. Elle a directement lié les menaces de Trump contre l'Iran aux exigences d'un milliardaire israélien de la cybersécurité visant à priver les Américains de la liberté d'expression garantie par le Premier Amendement. Bon, mais en plus, il y a des fractures au sein du MAGA, au sein de l'électorat américain, Lara.
Ah ben c'est tout cité, c'est exactement ce que MAGA peut reprocher aujourd'hui à Donald Trump, effectivement.
Bien, la France, pour terminer, et après on passe au grand entretien. Donc, est-ce que les manifestations de l'année dernière de notre paysannerie, de nos agriculteurs, de nos éleveurs vont être relancées? Il semblerait que l'axe allemand de la grosse commission, que ce soit Merz, que ce soit von der Leyen, se félicite déjà de signer, là, courant janvier, les accords du Mercosur. Est-ce que ça pourrait mettre le feu aux poudres en France?
Si ça ne met pas le feu aux poudres, c'est la mort assurée. Donc, à mon avis, ce n'est pas à nous, quelque part, les citoyens des villes, que de aujourd'hui de demander qu'est-ce qui va se passer. Enfin, c'est à eux de se prendre en main, à mon avis. Si leurs syndicats sont incapables de gérer cette question, c'est aux agriculteurs. Ils ont des engins, ils sont semblables à une armée, ces gens-là. Donc, s'ils se font pas comprendre ce qu'ils veulent, bah écoutez, quelque part, donc on va vers le néant, on galope.
On galope vers le néant. Merci Lara. Un auditeur, bonjour, santé à toute l'équipe de Radio Courtoisie. Et l'enfer, c'est la terre. Juste mardi 6 janvier, toutes les forces de l'ordre seront à Paris. Donc pour venir à Paris occuper, ça sera très dur. Comme sous l'occupation, on vous demandera vos papiers, bien courtoisement. Et oui, il y a des manifestations dès la semaine prochaine à Paris. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Lara. Pas de mots de fin? Non, vous avez dit ce que vous souhaitiez?
Et malgré toutes ces nouvelles anxiogènes, encore une fois, je souhaite en cette maintenant veille de Noël pour les Arméniens et pour les orthodoxes, je souhaite quand même une sérénité, l'épiphanie qui arrive. Voilà, essayons de nous, au moins de nous souder au sein de nos familles, avec nos amis, etc. Préparons-nous à une année, je pense, assez perturbante.
Bien. Merci beaucoup Lara. Et ben voilà, cette revue de presse s'achève, chers auditeurs de Radio Courtoisie, et nous allons passer maintenant au grand angle, si vous le voulez bien. Voilà, ainsi parlait Zarathoustra, et Zarathoustra aujourd'hui, pour ce premier livre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie du samedi 3 janvier 2026, c'est François Martin. Allez, François, mon cher François, donc, bon, la revue de presse est un petit peu, hein, en résumé, le questionnement qui sera le mien. On a dit bilan 2025 et on a dit prévision 2026.
2026, oui.
Alors, est-ce que vous avez envie déjà de ramasser dans une belle envolée le bilan 2025?
Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'ai aigre doux, je dirais ça comme ça, sweet and bitter, comme on dit en anglais. Deux choses. Premièrement, les peuples, que de souffrance, que de souffrance. Les civils, les militaires en Ukraine, en Iran, à Gaza, où il y a des centaines d'enfants qui meurent de froid en ce moment, il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que Israël vient de révoquer je ne sais combien d'associations humanitaires. Pourquoi on révoque les associations humanitaires quand on cherche la paix? C'est effroyable ce qui est en train de se passer. Donc n'oublions pas, les Vénézuéliens, aujourd'hui, les souffrances indicibles du peuple syrien pendant des années et des années. Une remarque au passage, on ne se rend pas compte du caractère diabolique de ce que représentent les sanctions. On dit « ah, je sanctionne », mais quand on sanctionne, moi j'ai travaillé dans le lait pendant des années, pendant 10 ans j'ai travaillé dans le lait, et on vendait du lait en poudre en particulier et du lait infantile dans ces pays-là. En particulier, on vendait à la Turquie, qui vendait à l'Iran et à l'Irak. On sait que, et c'est le cas de l'Iran, une des raisons pour lesquelles l'Iran est sous sanction, a envie de rester sous sanction, c'est parce que ce sont, on le sait très bien, les gardiens de la révolution qui tiennent le commerce et qui tiennent le marché noir en particulier. Alors quand on est dans le marché noir, ça détruit totalement une société parce que ça enrichit les personnes qui tiennent le marché noir d'une façon absolue, absolue, parce que on fait 1000 fois la culbute lorsqu'on revend un produit, et en même temps, on a les personnes, et les enfants en particulier, qui crèvent de faim et qui meurent littéralement de faim. Donc ça, si tu veux, c'est véritablement ma souffrance, je dirais, sur et le Congo, et le Soudan, etc., etc. Bon. Donc si je regarde ça, l'année 2025 est une année absolument effroyable. Pas oublier ça. Et le froid, et l'Ukraine avec les gens privés d'électricité, etc. On voit que la guerre, mais faut voir tout. Alors ça, c'est le côté négatif, je dirais. Alors, si je regarde par contre du côté politique, là, je trouve que globalement, je dis bien globalement parlant, je trouve qu'on a beaucoup avancé et plutôt dans la bonne direction. Et dans ce sens-là, je ne partage pas l'idée de Lara comme quoi Trump est un belliciste qui se cache derrière les oripeaux, sous les oripeaux d'un pacifiste. Je ne le pense pas. Je pense que Trump est quelqu'un qui arbitre entre ce que je dirais les « make peace great again » qu'ont fait Marjorie Taylor Greene et les « make war great again ». Et il donne aux uns, il donne aux autres, et en fait, il ne choisit pas, soit qu'il ne sait pas choisir, soit qu'il ne peut pas choisir, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis extrêmement content que Trump soit arrivé au pouvoir, je vais le dire encore une fois. Et quand je dis ça, je ne suis pas trumpiste. On m'accuse d'être un trumpiste béat, mais je ne suis pas trumpiste. Je ne dis pas que Trump est un type formidable qui réussit tout ce qu'il fait et qui va vers la paix, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que la trajectoire telle qu'elle était avant l'arrivée de Trump me semblait être la trajectoire de la guerre mondiale assurée et de la guerre mondiale militaire, de la montée aux extrêmes, parce que les États-Unis étaient un bateau ivre. Le principal pays du monde, le plus riche, le plus puissant, le plus militaire, etc., était un bateau ivre non dirigé, dirigé par les oligarchies. Donc ça, c'était absolument gravissime. Et on a vu que Trump a mis la main dessus. Alors, si on lit, par exemple, encore une fois, cette interview de Marco Rubio avec Medine Kelly le 30 janvier, ou bien le document de sécurité nationale, on s'aperçoit que les fondamentaux aujourd'hui, où les États-Unis affirment même qu'ils ne sont plus les maîtres du monde, et qui n'ont plus vocation à l'être, me semble être une bonne chose. Donc, doctrinalement parlant, je pense qu'on a amélioré les choses. Par contre, c'est vrai que sur le plan comportemental, on est resté à des méthodes, enfin, je veux dire, moi, je me mets à la place des Américains. Si au moment de Black Lives Matter, il y avait eu une injonction chinoise en disant « si jamais vous vous attaquez les pauvres émeutiers là, si la police les touche, nous on va bombarder les États-Unis. Enfin, t'imagines ? On aurait dit mais attendez, vous êtes cinglés quoi. Et là il dit ben écoutez, on va bombarder l'Iran. C'est notre droit. Enfin c'est de la folie. On met le Venezuela sous sanction majeure et on bombarde les bateaux, etc. C'est de la folie. Donc, mais globalement parlant, c'est plus, si j'essaye encore une fois d'être honnête, intellectuellement honnête, hein, c'est plus l'image de quelqu'un qui cherche une voie entre les bellicistes et les pacifistes que de la part de quelqu'un qui est véritablement un belliciste, qui se cache sous les oripeaux d'un pacifiste, si je peux dire. On est dans une recherche et on est encore dans une période hybride, je dirais, où on n'est plus, plus du tout dans l'orbite de l'hégémonie américaine. D'ailleurs, dans le document que j'ai bien analysé, puisque j'en ai fait le dernier chapitre de mon livre qui sort en principe en janvier ou en début février, bien analysé, il dit la sinistre philosophie de l'hégémonie américaine. Donc la nouvelle administration rejette l'hégémonie américaine, mais pourtant elle se comporte d'une façon qui est par endroit et par moment qui reste hégémonique, confère ce qui se passe en Iran. Et pour dire un petit mot sur l'Iran, mais après on reviendra, je pense, conflit par conflit. J'ai eu un message ce matin d'un de nos amis communs, dont je ne vais pas dire le nom, qui se trouve actuellement en Iran, et qui me dit « Mais ne croyez absolument pas la propagande de ce que vous répètent les services israéliens, américains et français. » Donc j'attends qu'il rentre la semaine prochaine pour qu'il m'explique véritablement ce qu'il en est. Mais il n'en reste pas moins que le peuple souffre. Donc je dirais que, pour résumer, c'est ça. Le côté très triste, je dirais, des souffrances des peuples, ne parlons même pas du Congo, quoi. Et puis d'un autre côté, les choses qui avancent, je dirais, cas un cas, mais qui avancent, à mon avis, plutôt dans la bonne direction. Et quand je dis ça, je ne suis pas très affirmatif non plus, parce que je ne suis pas, absolument pas étonné de ce qui se passe en ce moment et des bombardements sur le Venezuela. Et on en avait parlé ensemble, tu te souviens, les dernières semaines. Et je suis un de ceux qui a le plus dit que le Venezuela était une question absolument majeure pour les États-Unis. L'Ukraine est une guerre coloniale pour les États-Unis, l'Iran est une guerre coloniale parce que ça vise à embêter les Russes. Le Venezuela est une guerre et n'est pas une guerre coloniale pour les États-Unis, c'est véritablement une guerre de leur arrière-cour directe. Donc c'est une guerre, je cherche le mot, qui est essentielle pour eux. Et à mon avis, ils l'ont déjà perdu depuis longtemps. Mais je ne suis absolument pas étonné que la sauce, qu'on fasse monter la sauce sur ce plan. Et ça, c'est pour moi une des possibilités de mondialisation de cette guerre, à laquelle fondamentalement je ne crois pas.
De tout ce que tu viens de dire, moi, je, plutôt que de s'attacher à savoir est-ce qu'il est pacifiste ou belliciste, moi, ce que je constate, c'est que c'est le même impérialisme. Et ça, pour donner raison à un ami commun, patron d'émission sur Radio Courtoisie, François Martin, Paul-Marie Couteau l'avait dit. Alors, vous n'étiez pas d'accord à l'époque, mais il avait dit, mais c'est l'Empire. Trump sera l'Empire. Et d'ailleurs, l'Empire a de beaux jours parce que Trump, c'est moins mauvais que ce qu'aurait pu être Kamala Harris ou ce qu'était Joe Biden. Il se comporte, quand il est bien sur son espace vital, dans son arrière-cour, il frappe directement. C'est la diplomatie de la canonnière, c'est le bombardement, les tapis de bombes qui vont certainement maintenant s'abattre sur Caracas. Et puis, les coups tordus, la CIA... sur les opérations extérieures, ce qu'il ne considère pas comme étant sa chasse gardée. Et je trouve que Boudanov, à la place de Yermak, une sorte de numéro 2 avec Zelensky, qui est le diplomate, le clown de service, c'est pas du tout, et encore une fois, et je ne vois pas et je n'imagine pas que les Américains, et que donc Trump lui-même n'ait pas donné son accord, c'est la plus mauvaise nouvelle. Et justement en faveur des bellicistes qu'on ait pu imaginer. Boudanov, c'est un type qui est extrêmement dangereux, qui est un homme qui est dans les mains des Américains, dans les mains de la CIA. C'est l'ancien patron du renseignement ukrainien. Et ça va à nouveau pas du tout dans le sens de l'apaisement en Ukraine, hein, je trouve.
Alors, je suis bien évidemment pas tout à fait d'accord, en partie d'accord évidemment avec ça, parce que c'est ce qu'on regarde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas empêcher non plus, d'abord, que la doctrine a changé, et donc j'incite ceux qui disent le contraire à relire le document de sécurité nationale et à Paul-Marie Couteau de le lire.
Ah oui, aussi. Non, mais ça, c'est des mots.
Oui,
mais ça, sont des mots.
Non, c'est pas des mots. C'est la doctrine. La doctrine, quand tu publies une doctrine, tu publies une doctrine. C'est pas les mots, c'est ce que tu penses et ce que tu veux faire. Alors, ensuite, c'est pas forcément ce que tu fais. Et moi, je pense qu'on a plutôt un problème de comportement qu'un problème de doctrine. Enfin, c'est pas la même chose que de dire l'épouvantable ou bien la sinistre hégémonie américaine dans un document officiel signé par le président de la République que de dire « nous sommes la bénévolente globale hégémonie », c'est-à-dire « nous sommes l'hégémonie globale bienfaisante » qui était la doctrine officielle à l'époque de Bush fils, par exemple, et des néoconservateurs. Donc pour moi, il y a une différence entre doctrine et comportement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, François, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, une doctrine pour des Américains et pour Trump, l'homme de l'empirisme? On va juger l'arbre, non pas à sa structure, mais à ses fruits. Je trouve que là, tu fais preuve d'un optimisme. Parce que la réalité, c'est que Trump est tout sauf un doctrinaire. Donc, ils peuvent produire à la Maison-Blanche toutes les doctrines qu'ils veulent. Ce type est un pur empiriste. Ça va au-delà du comportement. C'est l'action. Et son action, elle va totalement en contradiction aujourd'hui. Il intervient partout dans le monde. On ne l'a jamais vu ça depuis bien longtemps. C'est de l'interventionnisme à l'état pur. En Afrique, au Proche-Orient, il est menaçant comme c'est pas permis par rapport à Taïwan. Il a beau dire ce qu'il a à dire, on a été à deux doigts de livrer des missiles Tomahawk. À deux doigts! Ce qui avait toujours été refusé clairement par Biden. Et on dit, oh, c'est un grand pacifiste, Trump, il n'a pas donné de missile Tomahawk. Mais vous voulez rire? C'est-à-dire que c'est le premier à l'avoir envisagé, comme c'est lui qui a donné les fameux missiles anti-char Javelin qui ont brisé la colonne vertébrale de l'infanterie mécanisée russe au début de la guerre, au début de l'opération spéciale. Trump, il faut quand même l'évaluer à la réalité de son action, je trouve.
Alors, moi, je porter un peu de contradiction. Pas ça parce que, en même temps, le sommet d'Anchorage, ça existe. En même temps, il y a eu 6 rounds de négociations avec l'Iran. Alors, après, je suis d'accord qu'il leur a tapé dessus, mais ça a duré 24 heures. Il y a les velléités d'accord aujourd'hui avec les Russes qui existent aujourd'hui, qu'ils ont brisé avec cet attentat, et on va en reparler. Mais pour moi, il y a plutôt une double face. Je ne dirais pas que c'est un pur empiriste et je suis d'accord avec toi sur évidemment le côté interventionniste, mais malgré tout, il y a une. Je veux dire, on ne parlait pas avec les Russes en aucune façon avant que Trump arrive. Ça, c'est quand même une différence énorme, ça, quoi qu'on en dise. Il y a eu quand même cette rencontre de Riyad qui a été la première. Enfin, c'est Trump qui a débloqué la situation, quoi qu'on en dise. Et il y a une négociation, quoi qu'on en dise. Donc, je ne suis pas aussi négatif, si je peux me permettre.
Tiens, bien sûr.
Il faudra voir la suite. Il faudra voir la suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet attentat, puisqu'on va donc parler un peu des perspectives 2026, cet attentat a changé beaucoup les choses. Parce qu'il suffit de se demander, s'il y avait eu 91 drones qui étaient partis ou du Mexique ou du Venezuela sur Mar-a-Lago, qu'est-ce qu'on aurait dit? On arrête tout, tout le monde aurait été tétanisé dans les rédactions et partout, et on aurait dit, ça y est, c'est la guerre mondiale militaire.
C'est ça.
C'est ce qu'on aurait dit.
Bien sûr.
Et on n'aurait pas dit c'est les Vénézuéliens ou c'est les Mexicains, on aurait dit c'est les Chinois et c'est les Russes. Voilà. Donc ce que je pense moi aujourd'hui, c'est que, je vais revenir sur une réflexion que je me suis faite à ce moment-là, dès que j'ai vu ça, sur la capacité des grands hommes à transformer, je dirais, les éléments dramatiques pour les utiliser dans le cadre d'une réflexion ou d'une action stratégique qui est celle qui est poursuivie par eux. Et j'ai pensé à l'attentat du Petit Clamart.
Oui.
l'attentat du petit Clamart. En fait, quand De Gaulle arrive au pouvoir, il a un objectif principal qui est celui de tout le début de son règne, je dirais, en deux parties. Et ça fait un peu penser à Trump, je dirais, d'une certaine façon. L'une, c'est de balancer tout le patrimoine, je dirais, colonial, y compris l'Algérie. Et de l'autre, c'est de museler une partie de ces oligarchies. Et tu sais qu'en général, pour un chef d'État, tu as deux types d'oligarchies. Tu as, je dirais, les oligarchies mondialistes et les oligarchies nationalistes. Et tu as besoin des deux pour travailler. Parce que si tu n'as que des mondialistes, tu as ce que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire que tu n'as plus de structure dans ton pays et tu n'es plus que le porte-parole d'un certain nombre de mondialistes qui sont en général toujours des compradors, des bourgeoisies compradors, qui cherchent l'affaiblissement du pays pour vendre le pays à l'encan, à l'étranger. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en France avec Macron. Mais tu as aussi parfois, tu es entre les mains des bourgeoisies nationalistes ou des groupes de pression nationalistes qui, eux, ne sont pas là pour la... En fait, tu as la chair d'un côté et tu as le squelette de l'autre. Alors, tu peux te passer ni des uns ni des autres parce que si tu n'as que des nationalistes, tu enfermes ton pays complètement et tu ne fais pas de commerce et tu n'enrichis pas tes populations. Si tu n'as que des mondialistes et des bourgeoisies compradors, tu as une petite élite qui est très riche et tu as une fracture sociale intense, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Donc le but de De Gaulle, c'était de se débarrasser, en l'occurrence, des nationalistes et des rêveurs de l'Empire, je dirais. Donc ça commence à Mostaganem, évidemment, je vous ai compris, où il dit, en gros, je vais vous tromper, c'est ça qu'il dit, son sous-jacent. Ensuite, il y a la première réponse, et ensuite, après, il y a le fait de donner l'indépendance. Ensuite, je vais vite, hein, il y a le premier référendum sur l'autodétermination de l'Algérie du 8 janvier 61. Ensuite, il y a le référendum, le deuxième, du 1er janvier 62 sur l'Algérie. Et ensuite, il y a l'attentat du petit Clamart le 22 août 62. Et ensuite, il y a le référendum du suffrage universel le 28 octobre 62. Donc tout ça, c'est une série d'événements. Le but de Gaulle, c'est de se servir du suffrage universel pour verrouiller définitivement les oligarchies de son pays en se positionnant par-dessus la tête des oligarchies, parce qu'il est adoubé directement par le peuple et non pas choisi par les oligarchies. C'est ça son objectif. Donc, c'est véritablement ce référendum de octobre 62 est absolument fondamental pour De Gaulle. Et il dit, c'était De Gaulle, il discute de ça, a posteriori, avec Perfit. Et Perfit lui dit, finalement, l'attentat du petit Clamart, ça a permis de dramatiser la question de l'élection du président au suffrage universel, et donc ça vous a rendu service d'une certaine façon. Et Perfit dit, et je la phrase dans la tête, à ce moment-là, le général pose sur moi son regard d'aigle et dit « ça tombe à pic ». C'est-à-dire qu'au moment où il se faisait tirer dessus par au moment du petit Clamart, De Gaulle ne se dit pas « ça y est, je vais y passer », il se dit « chouette, c'est exactement ce dont j'avais besoin si je veux assurer ma victoire à ce référendum ». Et il le fait en octobre. C'est-à-dire 2 mois plus tard, au moment où la pression est extrêmement forte. Alors, je dis ça parce que si Poutine souhaite aujourd'hui aller jusqu'à Odessa, ce qui doit être quelque chose qui le titille quand même drôlement, il doit justifier ça auprès de ses populations. Parce que c'est quand même les conscrits qui meurent aujourd'hui dans cette guerre, qui est une guerre existentielle, mais qui est aussi, je dirais, quelque part une guerre extérieure, puisqu'elle n'est pas sur le sol russe, mis à part les petites incursions, mais c'est essentiellement sur le sol ukrainien. Mais là, il a véritablement un argument massu vis-à-vis de ses propres populations et vis-à-vis de l'extérieur pour dire « mais moi, je ne discute plus avec vous, je ferme les écoutilles et j'y vais ». Donc, je dirais que cet attentat est lui ouvre une perspective, et j'en suis d'autant plus certain que si tu regardes la distance qui existe entre Kiev, où la frontière qui n'est pas très loin, et la région de Novgorod, ça fait 900 kilomètres. 900 kilomètres à peu près, hein, j'ai fait le calcul. Et si tu regardes la vitesse d'un drone militaire, ça fait à peu près 100 kilomètres à l'heure. Donc ça veut dire qu'ils ont observé ce mouvement pendant 9 heures. Donc, ils ont largement eu le temps, et Poutine a eu largement le temps, d'une part, de se mettre à l'abri s'il était effectivement là-bas, mais en tout cas d'élaborer une stratégie pour dire « laissez-les venir ». Laissez-les venir. Et si tu regardes ce qui s'est passé, ils en ont bousillé une partie, je crois, autour de Minsk, et puis une partie également, je ne sais plus, dans une autre ville, et ils en ont laissé une trentaine ou une quarantaine. Donc, si tu veux, moi, ça me laisse penser à un attentat du petit Clamart piloté, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Voilà. Et je trouve que ça a ouvert, sur le plan stratégique, une perspective à Poutine qui est extraordinaire, parce qu'elle lui donne une justification morale et politique pour aujourd'hui faire ce qu'il veut. S'il veut aller jusqu'à Odessa, comment est-ce que les Européens, comment est-ce que Trump peut lui dire « non, je ne veux pas, je m'y oppose ». Il dit « écoutez, on est en train de négocier, puis vous m'envoyez 91 drones pour me tuer, mais quel genre de… » Et Trump ne va pas lui dire « ah ben c'est la CIA, mais moi je n'étais pas au courant ». Il ne va pas lui dire ça. Dans un cas comme ça, on s'en fout de savoir si tu es le patron du pays, tu es responsable. Si tu n'es pas au courant, c'est pire. Mais dans tous les cas, c'est toi qui es responsable. Alors, je pense qu'il peut y avoir eu, dans cette perspective toujours de Poutine, d'essayer d'utiliser l'événement en sa faveur, une espèce d'injonction à Trump disant « bon, ben maintenant, vous avez, j'ai perdu définitivement toute confiance possible dans ce régime ». Donc maintenant, vous me sortez ce Zelensky et je vous laisse 15 jours ou je vous laisse un mois. Et puis, de toute façon, si vous ne le faites pas, moi, j'irai jusqu'au bout de mes options. Parce que la seule façon pour moi, c'est d'émasculer ce régime parce qu'il ne représente plus aucun danger pour moi. Donc, j'irai jusqu'à Odessa et je prendrai la mer Noire et ça se terminera comme ça. Donc, c'est, je dirais, un peu ce que je vois comme les perspectives… on va savoir assez vite si on est dans l'accélération ou si on est dans la fin. Mais ça peut être une façon pour Poutine de forcer Trump à faire un choix. Tu vois ?
Ouais.
Et à ce moment-là, on verra si tu as raison, si Trump est véritablement un belliciste ou si, comme je le pense moi, quelqu'un qui balance entre les deux, mais qui cherche…
Alors moi, je n'ai pas dit qu'il était belliciste. Je dis qu'il est, il agit. Il agit comme un impérialiste. Après, entre l'action et ce qu'il est, il peut y avoir un écart. Hein. C'est la place de la névrose en matière comportementale, entre justement ce que l'on est et ce que l'on fait. Ce que je te propose, voilà. François, c'est qu'il est 9h45, donc c'est-à-dire l'heure de passer le petit bobineau. Oui. Beaucoup de questions d'auditeurs après, oui. Qui tournent autour justement de ce sujet de Trump. Donc on va pouvoir y revenir avant la suite. Oui. Allez, le bobineau, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes de retour dans ce libre journal de Géopolitique Profonde sur Radio Courtoisie. Notre invité du jour n'est autre que le géopolitologue, journaliste François Martin, l'homme qui a écrit « L'Ukraine, un basculement du monde », entre autres, ou encore « Le temps des fractures », et qui prépare, ou vient d'achever, vient de mettre la dernière action à son œuvre, à sa troisième... à son troisième livre, pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux, ce matin. Et donc, nous aurons bientôt le troisième tome du triptyque, voilà. Une sorte de triptyque, justement, de François Martin. François, les questions des auditeurs, cher Nicolas, cher Lara, je vais lire les quatre principales. Et d'abord et après, tu vas pouvoir réagir. Cher Nicolas, cher Lara, cher François Martin. Donc là, c'est très... je dirais que c'est très divers et varié les réactions par rapport à Trump. Donc celle-ci, sur les quatre actions de Trump officiellement, l'attaque sur le Venezuela visait le port de la drogue qui pourrit les USA. Prétexte, point d'interrogation. Je ne suppose pas que Poutine défende les cartels, bien courtoisement. Donc voilà quelque chose qui dédouanerait plutôt l'intervention de Trump. À cet auditeur... qui, lui, est tout à fait en désaccord avec François Martin. On lui avait dit qu'il se trompait. Bon sang, Trump, c'est l'État profond. C'est l'État profond. Voilà, donc là, lui, est tout à fait à penser à l'inverse. Une auditrice qui, elle, va complètement dans le sens d'un... Trump, c'est quand même beaucoup mieux que si ça avait été quelqu'un d'autre. Cette auditrice nous dit « Bravo à votre invité, à Trump, pour avoir calmé les islamistes au Nigeria. J'aurais dit la même chose de Poutine quand il œuvrait en Syrie. Trump a aussi domestiqué le chef syrien, alors moi je ne suis pas sûr, mais bon, qu'il ait domestiqué Al-Shara. Je ne sais pas qui a domestiqué qui. Trump a enfin inversé les flux migratoires aux USA, et quand il souffle son mépris à Macron, il nous venge. De toute façon, comme superpuissance, on n'a pas mieux. » Ça, c'est ce que nous dit cette auditrice. Et enfin, dernière intervention signifiante sur ce sujet. Bonjour Lara, Nicolas, Monsieur Martin. Vous disiez que l'Amérique était un bateau ivre, que le bateau pataugeait, si je puis dire. Mes impressions de béotienne sont que je finis par croire que Trump a été mis en place pour endormir le peuple américain qui ne supportait plus les dérives, entre parenthèses, euphémisme, mafieuse de Biden et l'entourage. Mon constat est que Trump ne fait rien si ce n'est la guerre partout, ou plutôt Trump mis en place par les néocons pour mettre le feu dans le monde. C'est un constat inquiétant, oui ou non ? Point d'interrogation. Voilà, là, tu peux réagir par rapport à ces quatre messages.
Oui, alors, je vais essayer de répondre globalement. Je dirais non, je ne pense pas que Trump a été mis en place par les néoconservateurs. Il a créé ce mouvement MAGA en 2007 ou 2009. Donc, ça fait maintenant presque 20 ans, quoi. Presque 20 ans, donc, et il s'est appuyé là-dessus pour remporter sa première présidentielle et sa deuxième présidentielle. Donc, c'est le combat toute sa vie. Donc, c'est pas simplement un alibi. Enfin, tu trahis pas les gens qui ont fait toute ta carrière politique. Par contre, aujourd'hui, les critiques de Marjorie Taylor Greene, et pas seulement d'elle, de Tucker Carlson, etc., me semblent extrêmement justes. C'est-à-dire, ils jouent trop avec, les obligations politiques. Et dans ce sens-là, ce que sont en train de faire les Européens pour essayer de le pousser dans la guerre ou à continuer les guerres pour essayer de briser son mouvement MAGA sont tout à fait bien vues et intelligentes, je dirais, par rapport à leur stratégie. Mais je pense que Trump essaye de trouver une issue, et il est obligé de trancher, et il ne tranche pas. Et on a déjà eu cette discussion, et à chaque fois qu'il y a eu une période de tension grave, je t'ai dit, il va proposer un nouveau sommet, et c'est ce qui s'est passé. En Corrège, tu te rappelles qu'on était dans une période de tension où il avait donné 10 jours à Poutine pour accepter les conditions, sinon on savait c'était l'Armageddon. Et 3 jours après, on apprend qu'il y aura un sommet en Corrège qui est le début en fait de l'entente, ce que j'appelle les carottes, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui est en discussion aujourd'hui, entre Jared Kouchner d'un côté et Kirill Dimitriev de l'autre. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a ça aussi. Ce n'est pas uniquement de l'impérialisme. Il n'y aurait pas cette négociation sur les carottes si on n'était que dans l'impérialisme. Moi, je ne le pense pas, je ne l'ai jamais pensé. J'ai toujours pensé qu'il y avait, entre les Russes et les Américains, une possibilité d'entente, parce que aux États-Unis, on sait que ce sont les grandes puissances financières qui dirigent, et elles, la paix les intéresse, évidemment, et toutes les possibilités d'investissement. Kirill Dimitriev a été nommé en février 2025 par Trump. Donc, dès que Trump a pris le pouvoir, en février 2025, il a nommé, je veux dire, Jared Kouchner, et Kirill Dimitriev, il a autorisé Goldman Sachs à travailler avec des grandes entreprises russes, alors qu'on était en pleine guerre. Donc, ça aussi, ça veut dire que ce n'est pas si simple, ce n'est pas simplement un néoconservateur, le couteau entre les dents, c'est plus complexe que ça. Donc, je ne partage pas globalement, je trouve que les avis, les questions qui sont posées, je les trouve trop tranchées, moi. Je pense qu'on est dans un entre-deux, et on en avait déjà discuté ensemble à ce sujet, on est dans un système hybride. Je pense que les Américains ont compris et ont accepté le fait qu'on est aujourd'hui dans une économie et dans un système westphalien et multipolaire, mais pour autant, et là je suis d'accord, Trump se conduit encore en partie comme un néoconservateur à l'ancienne. Je suis d'accord, voilà. Mais on est sur le fil du rasoir, exactement. Voilà.
Bien, François. Alors, on continue sur les prospectives 2026, sur les prévisions qui sont les tiennes.
Tout à fait. Alors, une première chose, comme je l'ai dit, c'est qu'on va savoir assez vite, suite à l'attentat, si on est dans le stop ou dans le encore. Ça, on va savoir. Et ça, c'est je dirais… Est-ce que le message va être compris par l'Occident pour fermer la bouche et lier les mains définitivement à Zelensky ou non ? Ça, on va le savoir assez vite. Et dans ce sens-là, moi, j'interprète le fait que Zelensky choisisse le chef de la sécurité comme son collaborateur le plus proche, comme une façon, si tu veux, de verrouiller les écoutilles pour se protéger dans cette situation qui va être excessivement dangereuse pour lui. C'est comme ça que je le vois, moi. C'est pas dans une perspective, je dirais, de contre-attaque, puisqu'on sait que on va être militairement dans l'échec absolu et de plus en plus, et en contrepartie dans la guerre sale. C'est ça qu'on voit se dessiner aujourd'hui. Donc, ça va être, Slaviansk et Kramatorsk vont tomber quand aujourd'hui on parle de 20 000 soldats, de 20 000 déserteurs ukrainiens par mois. 20 000 déserteurs ukrainiens par mois. Comment est-ce qu'une armée peut tenir avec 20 000 déserteurs par mois ? On est à la fin, quoi.
Oui, voilà. On est à la fin.
Voilà, c'est ce que je pense. Donc, Trump, mais Poutine l'a dit. Il a dit de toute façon où j'aurai gain de cause par la négociation, ou je l'aurai sur le plan militaire. Donc. Oui, il est sûr de son coup. Et les Américains le savent. Je rappelle que dans l'interview avec Megyn Kelly, quand elle lui dit « et l'Ukraine », Marco Rubio, qui vient d'être mis 10 jours avant en place, dit « mais les Ukrainiens ont perdu la guerre ». Il le dit du tac au tac. Et Trump l'a dit à Zelensky, les Russes n'ont jamais perdu une guerre. Donc, c'est une évidence pour eux depuis le début. Donc, ce n'est pas juste un néocon qui essaye de faire perdurer la bénévolente globale hégémonie. On n'est pas là-dedans, je ne le crois pas. Mais le comportement, je suis d'accord, reste un comportement. Bon, tu dis, ben, attendez, je vais vous bombarder. Bon, le Venezuela, c'est autre chose. Le Venezuela, c'est un territoire existentiel pour les Américains. Mais c'est un territoire existentiel, alors que, encore une fois, la, je dirais, la doctrine Monroe est mangée aux mythes depuis 20 ans, et elle est mangée à des mythes qui parlent le cantonais, le mandarin et le russe. Toute l'Amérique du Sud a été phagocytée par les Chinois qui ont investi. Donc, ils ont répondu à la doctrine Monroe, qui est une doctrine de la canonnière, en disant « je vais vous acheter ». Et c'est ce qu'ils ont fait, discrètement et intelligemment. Et tous les pays aujourd'hui, sauf l'Argentine qui vient de rebasculer dans le camp américain, mais qui était un des pays qui avait été le plus stipendié par la Chine, qui a payé les infrastructures, les routes, etc. etc. C'est une diplomatie et c'est une conquête par le commerce, tout ce qu'ont fait les Chinois, mais toute l'Amérique du Sud aujourd'hui est sinisée très profondément. C'est ça dont les gens ne se rendent pas compte. Donc, la situation américaine, elle est catastrophique sur le plan géopolitique aujourd'hui. Donc, je peux comprendre cette espèce d'attaque américaine sur le Venezuela. Ce n'est pas simplement néoconservateur, ça. C'est une espèce de réponse existentielle, mais elle est trop tardive. Parce que on a bien vu dans la négociation entre les Américains et les Chinois, si la confrontation à travers le Venezuela est véritablement une confrontation géopolitique majeure entre la Chine et les États-Unis, c'est la Chine qui va gagner. Parce que la Chine a deux armes. Une arme, ce sont les terres rares, dont les Américains ont absolument besoin, en particulier pour leur industrie militaire. Donc, ils ne peuvent pas se permettre un embargo total de la Chine vers les États-Unis. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Et d'autre part, ils ne peuvent pas se permettre non plus que les Chinois décident d'une guerre financière et de vendre à grande quantité les bons du Trésor dont ils sont les principaux détenteurs. Donc, si ça monte aux extrêmes, les Américains seront perdants. Donc, je pense que Trump fait ça au Venezuela parce que ces ultras lui disent « t'es en train de te faire avoir en Ukraine, t'es en train de te faire avoir en Iran, etc. » Donc, pour moi, c'est de l'habillage. Voilà. Je me trompe peut-être, hein. Il est impuissant en vérité. Les Américains sont impuissants, c'est ce que je pense.
Tout cas, les bombardements de cette nuit sont confirmés avec implication américaine. Hein. C'est des informations qui viennent de Reuters contre des bases. Il ne s'agit pas d'un port, hein. L'auditeur qui disait que c'est un port qui est bombardé. Non, non, là, ce sont des bases militaires vénézuéliennes qui sont
actuellement bombardées. On va voir ce qui va se passer, mais si tu veux, tu remarqueras par ailleurs que ni les Russes ni les Chinois ne réagissent jamais à chaud. Jamais à chaud. Ils se donnent toujours le temps de la réflexion. Et jusqu'à présent, ça leur a réussi. Hein. Moi, je suis sidéré, par exemple, je le redis encore une fois, que les deux ports du canal de Panama appartiennent à des intérêts chinois. Enfin, que les Américains aient laissé faire ça, ça en dit mais extraordinairement long sur l'état de décrépitude de leur réflexion stratégique avant l'arrivée de Trump.
Ben ça explique pourquoi Trump cherche à nationaliser maintenant le canal. Ouais.
Mais c'est trop tard. Ouais. Et en plus, si tu veux, si Trump, je dis toujours que la bonne idée, c'est de transformer le proverbe arabe qui dit la main que tu ne peux couper baise là. Il faut le transformer en la main que tu ne peux couper achète là. Ben c'est ce que les Chinois ont fait dans toute l'Amérique du Sud. Et aujourd'hui, tu ne peux pas retourner là-dedans en disant « si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous bombarde ». Avec le Chili, ça ne marchera pas. Avec le Brésil, ça ne marchera pas. Avec le Mexique, ça ne marche pas. Et les Américains, jusqu'à présent, la doctrine, je dirais, néoconservatrice, ne leur donne pas d'alternative à la diplomatie de la canonnière. Il aurait fallu acheter le Venezuela depuis 20 ans. Le Venezuela aurait dû être aujourd'hui un pays, nonobstant le type de régime, totalement acheté par les Américains qui auraient dû financer les infrastructures pétrolières, etc., etc., etc. Mais je dirais néoconservatrice, leur interdisait. Ils voulaient un régime à eux, mais ça ne marche plus, ça ne marche pas. Voilà. Donc, si on continue un peu sur ça, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui peut se passer. Bon, moi, je pense que…
Donc, en tout cas, pour ce que tu viens de dire, on est bien dans le retour à l'impérialisme traditionnel des États-Unis d'Amérique avec Trump.
Non, on n'est pas dans le retour à l'impérialisme. On est dans une période intermédiaire où on joue à l'impérialisme quelqu'un qui n'a plus les moyens de l'imposer. Voilà.
Ah bah, l'un n'empêche pas l'autre.
Bah si, l'un empêche l'autre, parce que quand tu es impérialiste avec les moyens de l'impérialisme, si quelqu'un ne fait pas ce que tu veux, tu lui casses la gueule et puis tu changes de régime. Bon, moi, je ne pense pas qu'il va arriver au changement de régime de Maduro, puisqu'ils essayent depuis Obama, ils n'ont pas réussi. Donc, je pense que ça montre surtout, si tu regardes le dessous des cartes, ce que ça montre, mais c'est mon opinion, c'est surtout un affaiblissement énorme de la puissance américaine, si tu veux. Moi, je vois la mise en œuvre d'une impuissance plus que la mise en œuvre d'un impérialisme. Voilà. Si je peux résumer là-dessus. Alors, allons sur d'autres sujets pour pas rester que là-dessus. Mais c'est important, hein. Je suis d'accord. L'autre sujet pour moi important, c'est l'Europe. C'est l'Europe.
Oui.
Parce que je pense qu'on va aller, quoi que l'on dise, vers la fin du conflit ukrainien en 2026. Essentiellement parce que militairement, les choses sont pliées. Bon, à partir de ce moment-là, et sauf, encore une fois, si Poutine décide d'en remettre une couche et d'aller jusqu'à Odessa suite à ce qui s'est passé l'attaque. Voilà. Mais je pense que dans tous les cas de figure, mon interprétation, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire pas mal de fois, c'est que la véritable négociation, c'est celle de l'accord entre la Russie et la Chine, et que le reste, c'est assez théâtralisé, parce que Trump, en fait, peut arrêter à tout moment le conflit par la couverture satellitaire, et il ne le fait pas pour une raison simple, c'est que comme il veut se dédouaner vis-à-vis de ses ultras, il préfère que ça soit Zelensky qui dise pousse, j'arrête et je négocie, et que ça soit Zelensky qui prenne la responsabilité, tout ça c'est de l'habillage, mais la responsabilité de l'échec et de la reddition plutôt que Trump. Voilà, c'est ça que je pense, moi. Mais dans tous les cas, je pense qu'on aura en 2026 cet accord entre les Russes et les Chinois, entre les Russes et les Américains. Mais ce que je pense, c'est que le jour où on a ça, ce jour-là, l'Europe cesse d'exister. C'est ce que je pense. Je pense que l'Europe cesse d'exister parce que l'Europe n'a plus de justification d'aller faire la guerre avec les Russes à partir du moment où les Américains et les Russes ont fait la paix entre eux. Tu vois ? Voilà. Donc, toutes nos justifications de nos 20 ans de guerre, la coalition des volontaires, Angleterre, Allemagne, France, etc., n'existent plus à ce moment-là. Alors, moi, je ne vois pas les Anglais, je ne sais pas comment les Anglais vont faire, mais je vois… Alors, Nigel Farage, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la position de Nigel Farage par rapport au conflit russe. Je n'ai pas étudié ça de près, mais bon… C'est l'homme qui monte, mais je ne sais pas ce qu'il pense. En tout cas, il y a un pays pour moi qui va être le prochain moteur, si tu veux, du changement, c'est l'Allemagne, évidemment. Aujourd'hui, les derniers sondages mettent Alice Weidel comme prochain chancelier, les sondages allemands.
Mais enfin, les élections ne sont pas pour tout de suite. Mais
non, mais c'est une révolution, ça. Ouais. Et elle ira à Moscou, puisqu'elle a déjà dit que… Bon, la prospérité allemande, c'est le gaz russe et la ruine allemande, c'est le gaz américain. Donc, elle va aller chercher du gaz chez les Russes. C'est évident. Or, comme l'Europe s'est organisée comme un bastion, là, comme le fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros, comme dit Jacques Brel, hein, le fort de Bellonzio européen face aux hordes mongoles, ça veut dire que l'Europe explose à ce moment-là. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va libérer dans tous les pays les forces nationalistes qui sont là, qui sont prêtes, qui sont mises sous le boisseau. Voilà. Donc, je pense que c'est la grande souffrance et en même temps la grande opportunité pour les peuples européens de se libérer. Si les choses se passent comme je le pense, je dirais que l'Europe aurait deux libérateurs. L'un, c'est Poutine et l'autre, c'est Trump. C'est peut-être un peu original ce que je vais dire, mais je serais prêt à dire ça. En fait, ce qui est en train de se passer est quelque part un élément qui va être majeur pour notre libération. Voilà. Tu vois ?
Mais est-ce que cette libération, elle ne viendrait pas plutôt de nous ? Encore une fois, est-ce que dans une forme de pensée magique, je suis désolé d'être un peu critique, mais est-ce qu'on ne prête pas à Trump un accompagnement d'une situation qui, de toute façon, a lieu ? C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un réveil des peuples en Europe. Alors, est-ce que celui-ci pourra aboutir ? Le sera-t-il permis ? Est-ce qu'une administration démocrate aurait pu faire autrement ? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment, que Poutine, en gagnant la guerre en Ukraine, déstabilise les régimes, le régime européen, oui, ça me paraît, je partage totalement ce point de vue. Trump, je ne sais pas. Il est vrai, une volonté, semble-t-il, de s'attaquer, d'ailleurs on peut peut-être en dire un mot, à la façon dont nous cherchons à attenter à la liberté d'expression en Europe aujourd'hui. Ça, c'est indéniable.
Ben bien sûr. Alors, si tu relis encore une fois le document et le document de sécurité nationale qui fait 30 pages, hein, j'incite vraiment nos lecteurs, nos auditeurs à aller chercher ce document qui est traduit en français sur Internet et de le lire ligne à ligne jusqu'à la fin. Et de lire en particulier à la fin, dans la partie politique étrangère, ce que dit ce document, c'est-à-dire Trump, puisqu'on a l'impression que c'est lui qui parle quand on lit le document, tellement il est incarné par Trump, ce qu'il dit de l'Europe. Il dit « l'Europe est vitale pour nous ». Il dit ça. « L'Europe est vitale pour nous ». Il dit ça. Mais il dit « vous êtes en train de vous détruire sur le plan civilisationnel ». Il ne parle pas simplement de la liberté d'expression, il dit « vous allez dans le mur ». Et quand on connaît Trump, ça veut dire « votre Europe, on n'en veut pas », premièrement, et deuxièmement, on va faire tout pour la faire exploser, pour la transformer dans l'Europe dont nous avons besoin, pas celle que nous souhaitons. Mais si tu veux, moi j'étais très étonné de voir dans ce document à quel point, enfin le mot « vital », c'est quand même très important quand les États-Unis disent « on a besoin de l'Europe ». Et je trouve que c'est du bon sens, parce que d'autres auraient pu dire « bon, de toute façon, nous, l'Europe, c'est un garde-manger, rien de plus ». Et je ne dis pas que beaucoup de forces aux États-Unis financières, économiques, pensent la même chose. Bon, mais ceci dit, dans la doctrine, encore une fois, si je fais la différence entre la doctrine et le comportement, dans la doctrine, il est dit « nous avons besoin d'une véritable Europe », en fait, c'est ça, et qui est une Europe des peuples. Je ne sais pas s'il prononce le mot « Europe des peuples », mais en tout cas, c'est la vision de Vance, ça ne fait aucun doute. Donc, il y a, de la part des États-Unis, une appétence pour une véritable Europe, je pense, et ça, c'est une chance pour nous. Mais pas celle d'aujourd'hui, c'est évident. Celle d'aujourd'hui, les Américains la perçoivent comme une menace parce qu'ils pensent qu'elle est perdue, précisément. Voilà. Donc, sauf si on veut ne pas tenir compte de ce que dit un régime sur lui-même, mais s'il se donne la peine de publier un document urbi et orbi, il faut quand même écouter ce qu'il y a dedans.
Alors, les auditeurs, justement, reviennent sur le sujet Trump qui va être, qui aura polarisé cette émission. C'est comme ça, on sait ça, là, les joies du direct et d'une certaine forme d'improvisation, c'est qu'on ne sait jamais comment l'émission, finalement, va aller. On a des plans, des idées sur la comète, et puis, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Donc, on a une auditrice qui revient, qui dit « Je persiste hein, ». La guerre voulue est souhaitée par celui qui, apparemment, ne dirige pas ou fait semblant. Donc, elle parle de Trump. De surcroît, il arrive à son mi-terme, autrement dit, il, c'est-à-dire pour elle, les néoconservateurs avec les anglo-saxons, vont le faire taire. Ça, c'est une auditrice.
Je dirais à cette auditrice, méfiez-vous de la simplicité. Attendez de voir...
Elle dit, je pense à ça quand je fais mon ménage.
Voilà. Il nous a souvent étonnés dans un sens et dans un autre. Donc, je rappelle que Trump est quand même un équilibriste extraordinaire qui est arrivé à se faufiler à travers les situations les pires et les pires des comment ça s'appelle des accusations des procès etc. Moi je ne vendrai pas la peau de l'ours ou du picargue Trump avant d'avoir plumé tu vois.
Un auditeur qui n'est pas du tout d'accord avec toi, qui dit « Trump est un ultra-sioniste dans la grande tradition des USA, toutes ses gesticulations ne sont que des simagrées pour donner le change auprès des MAGA. Sa politique en Palestine en est la preuve. Meilleur vœu. » Pas d'accord.
C'est pas si simple, là aussi.
Un auditeur, ça, c'est, ce sujet est intéressant. Bonjour, j'ai des doutes sur la fin du conflit en Ukraine pour 2026. Je vois bien Macron envoyer la Légion étrangère sur le front, ensuite guerre Russie-France. Ce n'est qu'un avis et heureusement, bien courtois.
Alors, je dirais répondre à cet auditeur que je pense que la Légion y a déjà été. J'ai cherché des détails que je n'ai pas trouvés, mais j'ai trouvé certaines informations. Ça serait intéressant de demander à Xavier Moreau, parce que en tout cas, la presse n'en a pas parlé, qu'il y a eu une cinquantaine ou une centaine de soldats sous couverture humanitaire qui ont été envoyés à Odessa. Parce que la bataille, c'est aussi ce qui me fait penser que la prochaine affaire, c'est Odessa, pour préparer en fait la bataille d'Odessa et installer des systèmes de protection et de, comment ça s'appelle, anti-missiles, etc. Et que donc il y a eu des Anglais et des Français et qu'ils ont été massacrés à coups de bombe dans la semaine où ils sont arrivés. Donc on n'en a pas du tout parlé, mais que Poutine a été immédiatement au courant, comme de juste, et a tiré sur Odessa et a détruit les baraquements et les soldats, et qu'il y a eu donc entre 50 et 100 morts français, soldats qui sont
et ça,
passés.
Ça, ça, ça.
Pour leur dire dès le début, les gars, voilà, vous voulez envoyer des gens, ben, je tue le premier qui passe la frontière. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est quelque chose qui finissent pas. C'est difficile de cacher quand même autant de morts, non?
Ben, tu sais, on cache, en France, on cache beaucoup de choses. Hein. Mmh. Mais je dirais que cette bataille dont parle cet auditeur, c'est une auditeur ou une auditrice, je ne sais pas.
Auditeur,
elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé, mais elle reste aujourd'hui sous-jacente, je pense. Mais ça vaudrait la peine de creuser ça dans les... parce que les Russes en parleront, les Français n'en parleront pas. Ça, c'est...
Ah, bien sûr.
Déjà, quand tu t'appelles Jacques Beau, on t'interdit d'ouvrir la bouche. Voilà le genre d'information que Jacques Beau pourrait infirmer ou confirmer, et Xavier aussi.
Et alors, ils n'en ont pas parlé, hein. Je les ai eus dernièrement sur Géopolitique profonde.
Et non, mais c'est assez récent, ça date d'une semaine ou 10 jours.
Mmh. Oui, mais je les ai eus il y a quelques jours.
Mais tu ne leur as pas demandé précisément cette question.
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet essentiel. C'est, je ne sais pas. C'est vrai.
Le fait que, Poutine ait fait une allusion, si tu veux, à la Nouvelle-Russie, le fait qu'il y ait ces escarmouches, je dirais, c'est plus que des escarmouches sur Odessa, tout ça me laisse à penser qu'on va vivre un deuxième acte de la pièce et que le fait que les Russes sont en train de pousser vers Zaporijia en ce moment dans le sud. Je pense qu'ils attendent le moment favorable, mais qu'on va avoir une poussée. Et à ce moment-là, les Européens et les Américains n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes, parce qu'on leur a donné, les Russes leur ont donné suffisamment de fois l'occasion d'arrêter. Mais je constate qu'il n'y a pas véritablement, globalement parlant, du côté occidental, une velléité nette et claire pour arrêter. On reste dans le flou. Hein. Encore une fois, il suffit d'arrêter la couverture satellite et puis c'est tout. Voilà.
Oui, c'est certain.
Et je pense que Trump ne le fait pas parce qu'il veut que ça soit, encore une fois, Zelensky qui prenne la responsabilité d'aller dire « j'ai perdu ». Pour que Trump puisse dire à ses ultras « c'est pas moi ».
Cette auditrice, tout d'abord, mes voeux de sainte et heureuse année. Concernant Trump et sa vision de l'Europe, il dit que les USA ont besoin de l'Europe, mais pourquoi ? Mais que reste-t-il à BlackRock à acheter dans notre pauvre France ?
Oui, c'est une bonne remarque.
Bien cordialement.
Oui, c'est une bonne remarque. Oui. Surtout quand il y a un régime aujourd'hui où tous les rats quittent le navire et ils sont été tous dans le navire, dans la cambuse où il y avait tous les fromages, et ils sautent tous à l'eau avec un morceau de fromage dans la gueule. Ouais, c'est ce qui se passe.
Monsieur Martin ne voit pas la réalité. Trump bombarde le Venezuela, le grand pacificateur. Elle cite Giap, Vo Nguyen Giap. Les impérialistes sont de mauvais élèves qui n'apprennent jamais les leçons de l'histoire. Là, elle parle de Trump, évidemment.
Bon, j'ai été le premier à dire que l'affaire du Venezuela était excessivement sérieuse et que s'il y avait une possibilité de monter aux extrêmes, c'était là plutôt qu'ailleurs. Hein. Je rappelle ça quand même. Donc, je suis pas totalement, j'ai pas manqué totalement de lucidité sur ce plan. Enfin, je pense pas. D'accord avec moi. Hein. Je l'avais dit. Hein, que c'était existentiel pour les Américains.
Et je dis aussi, il y a des hélicoptères américains qui ont été vus dans le ciel de la capitale Caracas. Donc on est bel et bien sur une intervention, non pas terrestre en tant que telle, on ne peut pas parler aujourd'hui d'intervention terrestre, mais on peut parler d'attaque aérienne et d'attaque balistique.
Oui, et alors là, moi je suis persuadé que les Russes et les Chinois vont faire quelque chose. Je suis absolument persuadé qu'ils ne vont pas laisser faire. Alors peut-être qu'ils ne répondront pas militairement, mais en tout cas ils ont truffé le Venezuela de matériel militaire, ça c'est sûr. Les Russes l'ont fait. Et par ailleurs, il va y avoir un épisode géopolitique, hein, c'est certain. Ils ne laisseront pas… c'est comme si les Américains retiraient leur base de l'Europe, quoi. Ça ne se fera pas. Voilà. Dans la mesure où, comme je l'ai dit, je pense que l'Europe est une arrière-cour quelque part de la Russie. Quand je t'ai dit ça, ça t'a étonné, mais l'Europe est bien une arrière-cour de la Russie.
Pas que ça m'a étonné, c'est que je ne considère pas qu'il n'y a pas un impérialisme russe comme il existe un impérialisme américain. L'arrière-cour de l'Amérique, c'est des Américains, des États-Unis, c'est en effet toute l'Amérique. Alors que la Russie est une puissance parmi d'autres de cet grand espace qu'est l'espace européen. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un profond déclassement que la Russie est devenue définitivement la puissance hégémonique de l'Europe, parce que historiquement, ce n'est pas vrai. C'est ça que je veux dire, c'est tout.
Ouais, je pense qu'elle a vocation à le devenir aujourd'hui, compte tenu de, si encore une fois la paix se fait, compte tenu des avantages qu'elle va tirer de sa position centrale absolument extraordinaire. Je pense qu'elle a vocation, elle l'était devenue d'une certaine façon par le gaz, il ne faut pas oublier ça, par le gaz. Et elle a vocation quelque part, aujourd'hui, la puissance émergente de l'Europe, c'est la Russie. La grande, grande puissance émergente de l'Europe, c'est la Russie, paradoxalement. Si on enlève les lunettes de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, l'Europe, c'est elle a vocation à être une arrière-cour de la Russie, même si la Russie, si tu veux, ne cherchera pas à envahir l'Europe. Mais on anticipe un peu trop peut-être aujourd'hui, si on dit ça. Et moi, je vois que, si tu veux, si ce que l'autre partie dont on ne parle pas, c'est-à-dire toutes les négociations des affaires qui ont été d'ailleurs indiquées simplement par une déclaration de quelques lignes de Poutine à Anchorage, disant qu'il y avait énormément de choses à faire sur le plan non seulement du pétrole, mais des terres, de l'intelligence artificielle, de la route des glaces, de l'Arctique, etc. etc. Et Trump a répondu, oui, les Russes sont des commerçants extraordinaires. Voilà ce qu'il a répondu. Donc ça veut dire, on a tout à faire ensemble. Donc voilà, n'oublions pas ça non plus.
Bon, en tout cas, sur le Venezuela, on a l'impression en plus qu'on a affaire à nouveau à une de ces fourberies trumpistes. Car quand même, il y a quelque chose qu'on découvre chez Trump depuis quelque temps, c'est que l'animal est fourbe.
Ah ben ça.
Avec l'Iran, grande fourberie. Et là, il semblerait qu'il ait essayé de rouler dans la farine Maduro, qui a une interview qui sort seulement maintenant. Alors que Caracas est sous le bombardement, il avait de bonnes informations de Trump en disant « nous pourrions discuter dans quelques jours avec Trump, Maduro ». Là, c'est toute la fourberie de ce requin.
On est absolument d'accord.
De l'immobilier.
Et non seulement il a fait ça, mais en même temps, si tu te souviens, l'élément de la fourberie maximum, c'est les six rounds de négociations avec l'Iran.
Oui.
Et après, ils bombardent l'Iran.
C'est ça.
Mais seulement, ils bombardent l'Iran 24 heures. Il prévient, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, l'Iran qui va bombarder, et il bombarde les trois sites. Il bombarde pas le quatrième site dont j'ai oublié le nom, qui est celui qui est co-géré avec les Russes, donc il se garde bien d'aller. Il y a quatre sites, il n'y en a pas trois, il y a quatre sites nucléaires, et le quatrième est co-géré avec les Russes, donc celui-là il n'a pas touché. Donc, on peut penser que les réserves fissiles, elles sont là. Hein. Et il le fait 24 heures et après, il se retire. C'est-à-dire, non seulement il trompe les Iraniens, mais il trompe aussi ses amis israéliens. Il ne faut pas l'oublier non plus, parce qu'il les laisse se débrouiller tout seuls dans leur guerre. Il ne les appuie pas dans le reste de la guerre des 12 jours. Voilà. Donc, oui, cet homme est d'une fourberie totale. Ça, c'est vrai. D'accord, avec les électeurs.
Une auditrice qui demande, pouvez-vous indiquer le lien permettant d'accéder aux documents américains sur l'Europe ?
Donc pas de document américain sur l'Europe. C'est le document de sécurité nationale américaine. Et il faut choisir une traduction en français. Ça s'appelle, je ne sais pas si c'est pas document, c'est pas document de sécurité nationale, mais c'est sécurité nationale américaine,
oui,
qui existe en anglais et tu peux le trouver avec une traduction française et c'est passionnant à lire. Et l'Europe, c'est la fin, c'est juste la fin.
Bien.
Il dit l'existence d'une véritable Europe est vitale pour nous. Donc, nous ne voulons pas d'un trou noir à la place de l'Europe. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une chance pour les vrais. Par contre, ça sera très sportif, effectivement. Parce qu'imagine que tout le monde sorte de l'Europe en même temps, ça veut dire qu'on doit compter sur ses propres forces. Alors, quand tu as ton industrie en capilotade, ton système de formation et d'éducation scolaire en capilotade, quand tu as ton système de production d'énergie en capilotade, quand tu as bousillé tout ton réseau international de diplomates, quand tu as mis tes paysans en ruine, tes petites entreprises en ruine, c'est pas évident de se redresser dans ces conditions. Donc ça va être tout l'enjeu de nos souverainistes, reconstruire une doctrine.
Cette émission va s'achever dans une minute, 30 maximum. Oui. Mon cher François, donc dégustons le quatrain plein de subtilités de notre ami Michel Dumas, comme toutes les semaines. Oui. Alors, le quatrain, cette semaine. À son prénom Donald, Trump s'identifie-t-il avec son caractère ignorant le subtil ? Aux élans explosifs si souvent volatiles, comme crypto-monnaie sans assise utile.
Eh bien, dis donc. Bravo.
C'est un de nos collaborateurs permanent et essentiel, Michel Dumas, de ses livres.
Ben, un jour, il faudra qu'il publie, qu'il trouve un éditeur et qu'il publie tous ses éditos au jour le jour, en face de la réalité internationale. Un petit paragraphe pour dire voilà ce qui s'est passé et voilà ce qu'il publie. Je
pense que ça serait envoyé déjà par courriel une série impressionnante et je lui avais pas eu le temps de lui répondre d'ailleurs. Et je l'encourage en effet, tu as parfaitement raison. Toi qui aimes à éditer justement tes écrits, François, tu as parfaitement raison.
Aujourd'hui, les possibilités d'édition sont beaucoup plus faciles. Exactement. On peut éditer à compte d'auteur, on peut trouver, mais ça serait ça serait original, je dirais. Là.
Et on lui ferait, bien sûr, toute la publicité.
La géopolitique en vert, ça serait…
C'est ça. On lui ferait toute la publicité qu'il mérite, Michel Dumas. Voilà. Cette émission s'achève. J'étais bien content de débuter cette année de géopolitique profonde. Oui, tu as répondu à ta manière, toujours. Et tu es droit dans tes bottes, dans tes analyses. Donc, il n'y a rien à objecter à cela. Après, il peut y avoir des désaccords partiels. Mais globalement, on est de toute façon bien d'accord, mon cher François. Voilà. Cette émission se termine. Merci à toi, François.
Merci à tous les auditeurs. Bonne année à tous. Bonne santé. Le paradis à la fin de leur jour pour tous.
Et surtout pas l'enfer.
Non.
Et surtout pas l'enfer. Donc, passez une excellente journée. Vous aurez maintenant, je crois, une rediffusion d'une émission de Mike Borowski. Et bonne journée sur Radio Courtoisie. Je vous souhaite à tous, non seulement, encore une fois, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre écoute.
Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.